Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Virginie Ruffnac, première vice-présidente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et chef du groupe Rassemblement dans ce même congrès. Virginie Ruffnac, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes également signataire de l'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, signé le 12 juillet dernier à Bougival. Un accord qui a été qualifié d'historique au moment de sa signature, mais qui a semblé fragilisé après son rejet par le FLNKS. Nous y reviendrons. Le ministre des Outre-mer, qui vient de passer une semaine sur le territoire, a affirmé à l'issue de son séjour que l'accord de Bougival était conforté. Est-ce que c'est aussi votre opinion ?
Alors, je le crois, parce que, en fait, passé la phase politique que nous avons conclue à Bougival, nous sommes entrés dans une phase de déclinaison juridique de cet accord, au travers notamment de ce comité de rédaction que le ministre a mis en place et qui a été qui a été l'objet d'un travail très sérieux de l'ensemble de ceux qui veulent faire avancer la Nouvelle-Calédonie. Et donc, nous avons effectivement trouvé l'écriture qui traduisait loyalement, on va dire, cet accord conclu à Bougival.
Ah justement, ce comité de rédaction, ça a été l'un des temps forts du séjour d'une semaine de Manuel Valls. Réunion à trois reprises de ce comité de rédaction, avec d'ailleurs des configurations parfois un peu différentes en fonction des gens qui ont été associés. Vous avez essentiellement travaillé à la rédaction du projet de loi constitutionnelle. Qu'est-ce que vous avez modifié par rapport à la rédaction de l'État, puisque Manuel Valls est arrivé avec un projet de loi? Vous avez changé quoi dedans ?
On a fait en sorte que la loi constitutionnelle soit assez bavarde, contrairement à l'habitude où elle est assez très restreinte et synthétique, parce que, vous savez, nous avons trop souffert d'ambiguïté, de virgules mal placées, de non-dits sur les précédents textes juridiques qui conduisaient en Nouvelle-Calédonie à ce que nous battions sur des notions, sur des histoires de corps électoraux, sur différentes notions. Donc, en fait, dans cet accord, d'abord, on a fait en sorte que véritablement toutes les notions là, de corps électoraux soient totalement inscrites dans la Constitution française, pour ne pas avoir de possibles interprétations sur ces sujets, mais que vraiment, on positionne très clairement les choses. Puis, vous le savez, on s'est aussi battu pour que la question de la nationalité calédonienne ne soit pas ambiguë et qu'aucun Calédonien ne puisse penser qu'il puisse perdre sa nationalité française parce qu'il serait doté d'une autre nationalité que la nationalité française, qui est la nationalité calédonienne. D'ailleurs, dans cette nationalité calédonienne, si vous voulez renoncer à la nationalité française, vous perdez de fait la nationalité calédonienne. Nous voyons bien qu'en fait, cette nationalité calédonienne, elle est imbriquée, elle est totalement adossée à la nationalité française. Donc, ces notions fondamentales sur des éléments qui sont très nouveaux, qui sont sui generis, hein, de leur propre genre dans la République, il fallait vraiment les expliciter pour que les Calédoniens soient rassurés. Et c'est ce que nous sommes efforcés de faire.
Ça s'est fait avec des débats ou est-ce que l'unanimité a été facile à trouver ? Parce qu'il y a quand même 5 délégations politiques autour de la table. Le Sénat coutumier est venu à un moment, le CESE à un autre. Est-ce que vous avez eu de la peine à trouver des termes communs pour modifier cette loi ?
Le débat a été très riche, chacun a avancé ses positions, mais nous avons abouti d'ailleurs comme à Bougival à l'équilibre trouvé entre chacun pour effectivement faire en sorte que cette écriture convienne à l'ensemble de ceux qui respectent leur signature. Et les travaux ont été longs. Hein. Il a fallu effectivement, comme vous le disiez, 3 réunions. Le samedi, nous étions de 14h à 20h sur cette rédaction l'avant-dernier jour plutôt des travaux. Mais les personnalités, les délégations ont fait preuve de responsabilité politique et ont avancé leurs arguments respectivement tout en trouvant finalement le point d'atterrissage.
Et alors ce texte maintenant, est-ce qu'il va être présenté en l'état aux assemblées ou est-ce qu'il peut encore être modifié ? Est-ce qu'il faut encore l'affiner ? Est-ce qu'il doit passer par d'autres circuits ?
Non, je pense qu'il va être présenté notamment en Conseil des ministres. Il va sans doute faire l'objet de filtres juridiques pour voir sur tout ce que le comité de rédaction a introduit à l'intérieur, même si s'il y avait des experts en droit autour de la table lors du comité de rédaction. Mais si tout ça est conforme à une rédaction constitutionnelle, conforme à aussi ce que nous avons voulu exprimer. Et encore une fois, ce qu'on a voulu exprimer, c'est traduire totalement, fidèlement, l'accord.
Il n'est pas dénaturé, l'accord de Bougival.
Il n'est absolument pas dénaturé. Au contraire, nous avons le sentiment Nous avions travaillé à Bougival pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans l'accord lui-même. Et en fait, dans Bougival, il y a des choses avec lesquelles les partisans de la France émettent des doutes et avec lesquelles les indépendantistes peuvent émettre des doutes. Mais en tout cas, la parole est claire dans l'accord lui-même. On sait ce qu'on veut faire. Eh bien, on a fait en sorte que dans le texte juridique qui décline cet accord, il en aille de même et qu'il en soit de même.
Alors, cette loi constitutionnelle crée notamment l'état sui generis de la Nouvelle-Calédonie. Il permet aussi la consultation des populations intéressées, hein, sur l'accord de Bougival. Cet état sui generis de la Nouvelle-Calédonie, ça vous dérange pas ? Ça correspond vraiment à ce qu'avaient souhaité les Calédoniens quand ils ont dit trois fois non à l'indépendance ?
Je vous rappelle que c'est un état sui generis au sein de l'ensemble national, c'est-à-dire dans la France. Ça veut dire qu'en fait, on est sur, finalement, une dimension où on dit la Nouvelle-Calédonie a beaucoup de compétences. Donc, on donne ce terme d'état qui était très important pour les indépendantistes, tout comme l'était d'ailleurs ce que vous avez évoqué précédemment, la notion de nationalité calédonienne. Mais en fait, vous savez, quand on trouve un accord, on aurait pu trouver un accord qu'entre ceux qui ont voté non à l'indépendance, qu'entre les partisans de la France, évidemment, à ce moment-là, il n'y aurait ni le terme d'État, ni le terme de nationalité. Mais quand vous allez chercher un accord, ben, vous êtes aussi obligé de faire des pas vers ceux qui sont en face. Sauf que, de notre côté à nous, le fonds obtenu sur le fait de ne plus avoir de référendum à l'avenir, et donc d'avoir un accord pérenne pour les Caléens, dégager l'horizon, en fait, de leur avenir, d'avoir des éléments de démocratie fondamentaux, que sont l'ouverture du corps électoral, qui est aujourd'hui une nécessité d'un élément antidémocratique insensé. Et puis enfin, d'avoir également un rétablissement des équilibres au Congrès, puisque 74% de la population calédonienne vit en province sud et n'était représentée que par 59% d'élus au Congrès de la Calédonie, donnant ainsi artificiellement cette majorité indépendantiste au Congrès de la Calédonie. Là, eh bien, nous rééquilibrons. Alors, on n'est pas à 1 pour 1, on est à 66% d'élus de la province sud au Congrès, mais ce sont des éléments déterminants de démocratie, d'équilibre trouvé. Et donc, on a trouvé cet équilibre et cette notion, ce terme d'État, comme la nationalité calédonienne, faisait aussi partie de cet équilibre avec l'exercice des compétences régaliennes exercées par l'État, à l'exception de celles sur les relations extérieures où un accord a été trouvé, mais en façon à circonscrire en fait le champ de ce transfert de la relations extérieures. Vous savez que dans les compétences de la Calédonie, présent du gouvernement, eh bien, il pourra aller en Nouvelle-Zélande et en Australie parler de commerce, mais il ne pourra pas aller parler de défense, de monnaie, de justice. Par ailleurs, uniquement dans notre région, il ne s'agit pas d'aller signer des accords avec l'Azerbaïdjan ou la Chine, et enfin, jamais contre les intérêts de la France. Donc, vous voyez, il y a un équilibre qui est trouvé au travers de cet accord, et je comprends bien hein, que du côté partisan de la France, on s'interroge, mais à ce moment-là, il n'y aurait pas eu d'accord. Et nous considérions que l'équilibre trouvé dans Bougival permet effectivement de donner des perspectives d'avenir plus apaisées aux Calédoniens.
C'est un équilibre que comprennent vos militants, vos sympathisants. Vous faites beaucoup de réunions, hein, les uns et les autres, pour expliquer et vulgariser cet accord de Bougival. Vous avez l'impression que les Calédoniens, globalement, y adhèrent, ils ont compris, ou il y a encore des réticences, il y a encore des inquiétudes, des interrogations ?
Non, nous faisons le travail. Nous faisons le travail de pédagogie, d'explication de l'accord. C'est un devoir que nous avons. Nous sommes signataires, nous assumons notre signature. Nous allons expliquer. J'y étais encore hier soir, toute la semaine prochaine, tous les soirs en réunion. Donc c'est véritablement le travail que nous faisons. Et à la fin des réunions, on fait voter un peu pour voir ceux qui votent pour ou contre Bougival. Et en règle générale, on s'aperçoit qu'on arrive à trouver les éléments pour convaincre les Calédoniens que cette perspective, elle est importante de cet accord. Parce que moi, je pose la question à ceux qui sont dans le dénigrement de cet accord, et notamment dans notre camp, quel est le plan B ? Que propose-t-il ? Si jamais il n'y a pas d'accord de Bougival et l'équipe que nous avons trouvé pour effectivement ne plus se soumettre à ces référendums qui sont insupportables pour la population calédonienne et qui déstabilisent et ont déstabilisé la Nouvelle-Calédonie, quel est le plan B ? Que propose-t-il ? Je suis vraiment à l'écoute et intéressée par ceux qui dénigrent pour savoir quelle est leur force de proposition.
C'est le grand argument de Manuel Valls aussi. Hein. Il n'y a pas d'alternative. Pour en revenir au comité de rédaction, qu'est-ce qui va devenir maintenant ? Il a vocation à être perpétué ? Il va devoir travailler également sur les prochains textes ?
Oui, bien sûr. Vous savez que la déclinaison juridique de l'accord de Bougival, c'est la Constitution française. Nous venons d'y travailler dans cette loi constitutionnelle. Et c'est également la loi organique spéciale, une loi organique de l'État votée par les sénateurs et les députés. Le comité de rédaction a vocation à travailler sur cette loi organique spéciale. Nous avons la loi fondamentale de la Nouvelle-Calédonie. Donc, évidemment, ce comité de rédaction va suivre tout le processus juridique finalement, de cet accord et de sa déclinaison. Et donc, évidemment, il va continuer de travailler.
Avec la société civile, qui, on le sait, régulièrement se rappelle au souvenir en disant qu'elle doit y être associée davantage. On a vu le Sénat coutumier qui a participé à deux réunions. On a vu le CESE qui est venu y participer. Le ministre annonce une réunion avec les maires en novembre. Est-ce que finalement, ça n'avait pas trop de gens pour rédiger des textes juridiques ? Est-ce qu'il n'y a pas un danger de dénaturer les textes ou de que chacun veuille y mettre sa patte ? Est-ce que c'est pas un danger quand même qu'il y ait autant de gens qui soient associés ?
Il y a deux choses. Ce à quoi je tiens beaucoup, qui est notre démocratie représentative. C'est-à-dire que les Calédoniens votent pour des élus et ils peuvent les changer à chacune des élections. Enfin, les Français en général, la démocratie représentative, c'est le système français.
Enfin, en Calédonie, il y a des rallonges quand même sur les provinciales pour changer les élus.
C'est pas de notre fait. Vous savez, nous aurions bien aimé du côté des partisans de la France aller plus vite.
On y reviendra.
Je crois que le fait que certains indépendantistes et bouder la table des discussions a considérablement reculé notre processus. D'ailleurs, je suis amusée de voir que ceux-là même qui ont boudé la table des discussions pour retarder et faire perdre du temps sont les mêmes qui demandent à ce que les élections se tiennent le plus rapidement possible aujourd'hui au passage. Enfin, pour venir à votre question, il y a la démocratie représentative. Les élus, c'est eux qui ont à construire pour les Calédoniens qui les ont choisis un modèle et qui leur proposent et que nous défendons devant eux. Et puis, par ailleurs, moi, je suis assez favorable et au contraire, à ce qu'un ensemble de partenaires représentatifs également, qu'il s'agisse du CESE ou du Sénat coutumier, soit associé aux travaux. Parce que notre objectif, c'est de fédérer l'ensemble de la population calédonienne autour de cet accord. Donc, on n'a aucunement envie de le réserver à quelques privilégiés que seraient les responsables politiques. Objectivement, le Sénat coutumier comme le CESE assistent aux travaux et donc ils sont associés, mais ce sont les délégations politiques qui ont force, qui ont voix au chapitre, excusez-moi, pour véritablement être force de proposition dans le cadre de ce comité de rédaction.
Alors toutes les délégations politiques participent à ce comité de rédaction, sauf une, le FLNKS. Est-ce que vous avez compris son rejet de l'accord alors que ses négociateurs l'avaient signé, hein, Bougival ? Est-ce que vous êtes surpris par leur attitude ?
Oh ben moi, je note, je constate que le FNKS est pris en otage par une frange extrêmement radicale issue de la CCAT et l'Union calédonienne est prise en otage de la branche la plus radicale, une branche radicale qui est celle de la CCAT. Je considère que la position qu'ils prennent dans un rejet total de toute solution en dehors de l'indépendance est une forme non pas et tout sauf un esprit de parti de gouvernement responsable et qui est en force de proposition pour les Calédoniens, mais uniquement de la tambouille électorale, la tambouille politicienne électorale. Et finalement, ils ne nous proposent aucune voie, ils ne proposent aucune solution. La seule chose qu'ils disent, c'est on ne respecte pas la démocratie, c'est-à-dire les trois voix exprimées par les Calédoniens, mettons qu'ils respectent au moins les deux premières, ça n'est pas le cas. Donc, quel que soit ce que votent les Calédoniens, on s'en fiche, et nous, on dit c'est indépendance ou rien. Et puis, ils ne proposent aucun espace de dialogue. Donc, quand ils voient le ministre pour leur dire que c'est à lui de discuter avec nous, parce qu'ils n'ont pas le courage de venir en face de nous pour discuter de l'avenir des Calédoniens, alors que le ministre est ici en ce moment, il a été ici, mais ce ministre s'occupe de la Calédonie, mais il n'a pas vocation à vivre en Nouvelle-Calédonie. C'est nous qui vivons en Nouvelle-Calédonie. Donc, que le FNKS s'enferme dans une extrémisation, une radicalisation totale en ne proposant aux Calédoniens que l'indépendance ou la violence, puisqu'on comprend que c'est un petit peu cela, c'est triste. C'est triste parce qu'au sein de cette Union calédonienne, de ce FLNKS, pardon, ce n'est plus le FNKS qui existait.
Et est-ce que vous avez des contacts avec eux avec les signataires, d'une part, Emmanuel Tchibaou, Rocco Mitan, Alozio Sacco, qui étaient avec vous à Bougival, qui ont signé. Vous les avez revus depuis ? Vous savez où ils en sont et pourquoi est-ce qu'ils n'expriment pas leur... Pourquoi ils ne défendent pas leur signature ?
Ah, c'est une vraie question. Mais on le voit bien, en fait, depuis que le Palika et l'UPM, c'est-à-dire deux autres partis quand même importants, très importants dans le FNKS, ont quitté ce FLNKS, l'Union calédonienne est complètement... irrigué par des divisions internes d'une profondeur énorme. Mais le problème, c'est que l'avenir de la Calédonie ne peut être pris en otage par les divisions internes à l'Union calédonienne. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible parce que les gens qui n'ont plus de pièces, plus de travail, plus d'emploi, plus de conditions dignes pour faire vivre leurs enfants, eh bien, eux, aujourd'hui, les divisions internes à l'Union calédonienne, ça n'est pas leur problème. Ça n'est pas leur problème. Et nous, nous avançons aujourd'hui avec ceux qui veulent faire avancer la Calédonie et sortir l'ensemble des Calédoniens, quelles que soient leurs origines, de la situation extrêmement difficile dans laquelle ils se trouvent. Et excusez-moi, Elisabeth, je vais être un petit peu longue, mais je voudrais m'adresser directement à la base indépendantiste. Je voudrais m'adresser à elle. Est-ce que cette base indépendantiste, aujourd'hui, le choix qu'elle fait, c'est celui que lui propose la branche FLNKS-CCAT, qui est celle de la violence, de la perte de leur emploi, de la non-émancipation de leur jeunesse, à qui on dit uniquement « restez dans la lutte contre l'indépendance », mais surtout « n'allez plus à l'école, n'allez pas vous former », puisque c'est un boycott de tout là, qui nous est proposé globalement. Mais vraiment, j'attire leur attention sur ce qui est bon pour eux et qu'ils réfléchissent, parce que je considère et moi je respecte les hommes et les femmes en Nouvelle-Calédonie qui ont une conviction indépendantiste. C'est une conviction qu'ils portent et je le dis, je les respecte. Mais aujourd'hui, vont-ils aller plébisciter le choix d'une branche radicale qui ne leur propose aucun avenir et qui ne respecte pas la démocratie en Nouvelle-Calédonie?
Mais vous les respectez, vous dites, vous les connaissez aussi, vous travaillez avec eux au Congrès. On a vu Pierre-Chanel Toutougourou, le chef du groupe UCF-LNCS, revenir dans le jeu pour le dernier entretien avec le ministre des Outre-mer. On a vu Gilbert Thuénon également réapparaître. Est-ce que vous avez des contacts avec eux? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous pensez que cette nouvelle délégation du nouveau FLNKS peut évoluer dans sa position ou est-ce qu'ils vont rester sur une position de rejet et de refus absolu?
Bah, écoutez, c'est une vraie question. Mais en tout cas, moi, je note qu'à l'issue de la rencontre avec le ministre, la position était celle du rejet total de Bougival. Et je note que le choix qui est fait par eux est à nouveau le choix qu'il y avait il y a quelques années de ça, des choix de bilatéral. Donc, où est-ce que nous existons, nous, là-dedans? Donc, le choix, c'est quoi? On revient à l'indépendance kanak socialiste? C'est ça? Et en plus, par la violence, en un coup d'État qui a échoué le 13 mai 2024. Donc, à un moment donné, il doit y avoir prise de responsabilité par ce plus ancien parti qui est celui de l'Union calédonienne et qui est un parti historique en Nouvelle-Calédonie qui a occupé une place fondamentale. Elle ne peut pas se laisser, encore une fois, aller à cette dérive de tambouille politicienne qui est sans aucun sens de la responsabilité pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.
Bon, mais si elle ne revient pas, est-ce qu'on peut mettre en œuvre l'accord de Nouméa sans le FLNKS, signataire de Matignon et de Nouméa, ou sans l'Union calédonienne, plus vieux parti de Nouvelle-Calédonie? Est-ce que c'est envisageable?
Je vais vous retourner la question. Peut-on faire procrastiner et stagner la Nouvelle-Calédonie alors que toute sa population est en détresse aujourd'hui parce que le FLNKS, qui est un plus le FLNKS que nous avons connu, se radicalise et est pris en otage par les plus ultras qui ne veulent aucun compromis et qui considèrent que l'avenir de la Calédonie se construit uniquement dans l'indépendance? Ma réponse est non. Ça veut dire que nous devons avancer avec ceux qui veulent relever, reconstruire la Nouvelle-Calédonie et considèrent que seuls les compromis et les accords entre les deux grandes légitimités calédoniennes, les partisans de la France et les indépendantistes, peuvent être source d'avenir pérenne, et puis surtout stable et dans la paix.
On va vous dire qu'on connaît les effets de la radicalisation, hein. On s'en souvient encore. Est-ce que vous ne craignez pas de nouvelles violences si l'accord est mis en œuvre, justement, sans qu'une partie des indépendantistes y ait adhéré? Et est-ce que vous avez des garanties de l'État que l'ordre public sera assuré, quoi qu'il arrive?
Parce que vous considérez que si on cède aux exigences du FLNKS qui
c'est
propose...
une question que je vous pose. On est payé pour le savoir, je vais dire, en quelques ans.
Vous pensez...
Donc j'imagine que vous êtes posé la question et que vous l'avez posée au ministre.
Je vous réponds sous forme d'une autre question. Vous pensez que si nous cédons aux exigences du FLNKS d'une indépendance en 2025, voire en 2027 pour la fourchette basse, la Calédonie va être dans un espace de calme, de sérénité, de stabilité. Les deux voies qui sont proposées aujourd'hui par le FLNKS sont la violence. Si nous cédons à leurs exigences, nous ouvrons un champ de violence pour l'avenir des Calédoniens.
La question, c'est est-ce que vous avez une garantie de l'État qu'il saura faire face à la violence?
En tous les cas, aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, que nous avons vu à l'issue de Bougival avec Alcide Ponga avant de revenir en Nouvelle-Calédonie, que nous avons régulièrement en ligne, le ministre Valls lui-même, tous sont déterminés à maintenir un niveau très élevé de forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie. Vous voyez bien, nous avons nos 20 escadrons gendarmes mobiles avec une collaboration gendarmerie-police qui est très efficace sur le terrain aujourd'hui et qui, en tout cas, essaye de tenir cette situation. Et je pense que nous ne sommes plus du tout dans le contexte où nous étions le 13 mai 2024. Mais nous ne pouvons pas céder à cette violence, car si nous cédons à la menace, à la violence, encore une fois, nous y serons... Nous la subirons dans un espace de long terme.
Alors Manuel Valls, quand il était en Calédonie, a rencontré à deux reprises en bilatéral le FLNKS et il s'est dit prêt à rencontrer Christian Terrien une fois qu'il serait rentré en métropole. le président du FLNKS, il est prêt à le rencontrer malgré sa situation juridique. Vous êtes d'accord? Il a raison, le ministre?
Moi, je vous donne la note de position, parce que je ne suis pas là pour répondre à la place du ministre. Je vais vous donner mon avis sur cette position. Nous, en tous les cas, côté Rassemblement Loyaliste, nous avons toujours dit que dans le cadre de la négociation et par respect pour ce qu'ont subi les Calédoniens, nous n'étions pas d'accord pour nous asseoir à côté de Christian Théin. Nous avions dit que si sa délégation souhaitait que sa signature soit opposée, c'était de leur responsabilité. Nous n'avons pas à choisir le signataire du camp d'en face. Que l'État veuille s'adresser à Christian Théin, qui aujourd'hui est le président du FNKS, c'est de l'ordre de sa responsabilité, de son choix. C'est de son choix. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'avenir des Calédoniens et qu'on puisse poser des bases saines et dégagées pour cet avenir-là. Donc, je veux vous dire que, pour moi, c'est ça la priorité. Voilà. Je considère que M. Théin doit absolument répondre de ses actes, parce que, même si aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'a rien fait sensiblement dans les déclarations qu'il peut faire, il était le chef de la CCAT qui a conduit à toute dégradation que les Calédoniens aient des violences extrêmement intenses que les Calédoniens ont subies. Donc aujourd'hui, il doit absolument répondre de ses actes, et c'est à la justice d'aller faire aboutir le processus en cours.
Alors, question qui s'est posée toute la semaine dernière, il était à Bougival, il n'était pas à Bougival, il a donné son accord à sa délégation pour qu'elle signe l'accord de Bougival ou non? Le ministre a dit qu'il avait donné son accord. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, puisque vous étiez sur place?
Alors, il était évidemment pas dans l'hôtel de Bougival, mais à Bougival.
Il est rentré une fois, il paraît quand même.
Il est rentré pendant que nous signions l'accord, précisément, puisqu'on a eu une photo de sa présence pendant que nous signions l'accord. Et par contre, il était à Bougival, puisque tous les jours, il y avait des rencontres entre la délégation du FNKS et Christian Théin. Donc, il ne peut pas ne pas dire que chaque jour, il n'était pas exactement informé, je l'imagine. Je n'étais pas présente lors de ces échanges entre sa délégation et lui-même, mais il était évidemment, je l'imagine, informé chaque jour du contenu de cet accord.
Et on peut penser qu'il a donné son accord pour que sa délégation le signe?
Je n'ai pas cette réponse et je ne veux pas m'engager sur des éléments que je n'ai pas, mais je l'imagine évidemment, puisqu'il était totalement présent et qu'il a été présent du début jusqu'à la fin de la négociation, encore une fois, pas sur l'hôtel, mais à quelques mètres de cet hôtel où sa délégation venait l'informer chaque jour.
Alors, en attendant, le calendrier de mise en œuvre de Bougival est extrêmement contraint. Le ministre des Outre-mer a eu l'occasion de le détailler à plusieurs reprises. Première étape, la loi organique pour reporter à juin 2026 les élections provinciales qui sont prévues pour l'instant en novembre 2025. Le ministre veut que la loi soit promulguée à la mi-octobre pour tenir le calendrier. On sait qu'il y a tout un processus de révision des listes, etc. Il reconnaît lui-même que le calendrier calédonien est tributaire de la situation politique nationale, une situation politique que vous connaissez. Est-ce que vous pensez vraiment que ce calendrier va pouvoir être tenu en cas de chute du gouvernement Bayrou, qui semble aujourd'hui quasi acquise?
Alors, bon, on n'a pas de boule de cristal. On ne peut pas prévoir de tous les événements possibles, parce que plusieurs scénarios sont sur la table. Il peut y avoir la chute du gouvernement et sa recomposition très rapide. Vous savez, les années précédentes, enfin, en tout cas, à chaque fois qu'il y a eu des chutes de gouvernement, il a été reconstitué très rapidement. La première fois qu'il y a eu un temps extrêmement long, ça a été lors de la chute du gouvernement au moment des Jeux Olympiques, où le président de la République a mis plusieurs mois pour nommer à nouveau un Premier ministre. J'espère bien qu'en cas de chute le 8 septembre, ce qui semble plus que très probable, eh bien, il y ait très rapidement reconstitution d'un gouvernement national, parce que nous en avons véritablement besoin. Nous avons besoin d'avancer pour la Nouvelle-Calédonie. Donc je l'espère. En tous les cas, vous me parliez de la loi organique de report. Celle-ci ne dépend plus du gouvernement aujourd'hui, puisqu'elle est déjà dans les assemblées parlementaires. Elle sera la loi organique de report des élections provinciales pour pouvoir questionner les Calédoniens sur l'accord de Bougival avant et avoir les élections municipales dans la foulée. Eh bien, elle est prévue le 16 septembre en commission du Sénat, et puis elle était prévue le 23 septembre, mais il me semble que la date a vocation peut-être à bouger en séance publique du Sénat. Puis ensuite, ça sera l'Assemblée. Donc, on le voit, ça va suivre son circuit, ça sera indépendant.
Sauf scénario du pire, s'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, qui est évoquée également ces derniers jours.
Alors là, c'est le scénario de la bombe nucléaire. C'est la dernière étape. Effectivement, la dissolution, ce que nous ne souhaitons pas, évidemment. Et puis, bon, on a vu, la dernière dissolution n'a pas forcément apporté du calme et de la sérénité à l'Assemblée nationale.
Hein. C'est donc, le moins qu'on puisse dire.
Voilà, c'est un peu ironique. Donc, de ce fait, nous espérons bien qu'il n'y aura pas de dissolution, ce qui serait extrêmement compliqué dans le processus calédonien que nous vivons. Mais je crois même que pour nos compatriotes de notre nation, la France, eh bien, ça serait très compliqué aussi.
Mais alors, si jamais ça arrive, effectivement, on est quand même obligé d'examiner tous les cas de figure. Si le calendrier ne peut pas être respecté, si cette loi organique ne peut pas être adoptée, il se passe quoi ? On est obligé enfin, on est obligé. Les élections provinciales auront lieu dans ces cas-là en novembre, avec un corps électoral non dégelé, non ouvert.
Objectivement, le risque, il est sur la loi constitutionnelle de l'accord.
Oui,
la loi organique, le report, à mon avis, s'il y a des majorités pour voter ce report, eh bien, on n'est pas dans un problème de blocage du fait d'une éventuelle chute du gouvernement national. Ce qui peut se passer sur la partie de la loi constitutionnelle, de la loi organique spéciale pour décliner l'accord signé à Bougival, ça, c'est peut-être un peu de report, un peu de temps, parce que si le gouvernement met une semaine, 10 jours à se remettre en place, à ce moment-là, il y aura juste un peu de délai. Mais c'est plutôt ça. Vous savez, moi, je me place... Il faut toujours anticiper les scénarios les pires, mais j'essaie toujours de me placer quand même dans le scénario le meilleur, et en tout cas, en essayant de mettre aussi les conditions pour que ce scénario intervienne, et en faisant passer nos messages à Paris. Mais en tous les cas, si votre question, c'est si jamais tout ça n'aboutit pas, est-ce qu'on a des élections provinciales ?
Oui, c'était le scénario du pire, là, que je vous faisais.
Allons sur le scénario du pire. Est-ce qu'on a des élections sur un corps électoral gelé ? Je vous dis non. Nous refuserons des élections sur un corps électoral gelé, parce que c'est antidémocratique. D'ailleurs, il y a une question prioritaire de constitutionnalité dont la réponse devrait être donnée au mois de septembre prochain sur la légitimité, la légalité, plus exactement, de ce corps électoral gelé en Nouvelle-Calédonie qui n'existe encore une fois nulle part ailleurs dans le monde. Je considère que ça n'est pas possible et que l'État, la France, qui est un pays de droit, qui est un pays de démocratie, ne peut pas à ce point bafouer des droits fondamentaux de Français en Nouvelle-Calédonie.
Alors, deuxième étape, le projet de loi constitutionnelle, vous en parliez. Manuel Valls a d'ailleurs parlé d'une réunion du Congrès de Versailles pour le 15 décembre. Là encore, il y a sans doute des incertitudes sur le calendrier, mais il y a surtout, est-ce qu'il y a une incertitude ou non sur la majorité des 3/5 ? Quel est l'état aujourd'hui des forces au Sénat et à l'Assemblée nationale pour soutenir un texte comme l'accord de Bougival ?
Nous faisons un gros travail, je ne sais pas si ça s'appelle du lobby, mais enfin à Paris, sur chacun des différents groupes.
Sur LFI, j'imagine que vous n'avez pas beaucoup de prise et que de toute façon, ils vont voter contre, vraisemblablement.
Probablement. En tous les cas, nous, on essaye de dégager la majorité républicaine, ce qu'on appelle une majorité républicaine sur l'accord des Calédoniens, parce que les groupes nationaux qui prendraient en otage l'avenir de la Nouvelle-Calédonie seraient responsables du chaos dans lequel ils plongeraient la Nouvelle-Calédonie. Et donc ça, moi, je veux attirer l'attention de chacun. Donc vous le savez, nous, on appartient à une famille, la famille des Républicains, qui évidemment est constructive pour la Nouvelle-Calédonie et considère que l'accord de Bougival trouve l'équilibre. Sonia Backès, Nicolas Mesdorf, Gilles Brial, les loyalistes, sont plutôt proches du mouvement du président de la République. Ils font également le travail. Il faut évidemment travailler avec le Rassemblement national pour essayer d'expliquer les enjeux. Mais les groupes centristes, les groupes, toutes les tendances politiques, la LFI, je pense que la LFI sera vue. Il y a des personnes qui discutent avec la LFI au sein des signataires.
Mais le Rassemblement national n'a pas l'air non plus très prêt à voter un texte comme celui-là. Vous avez eu des contacts avec eux ? Certains ont eu des contacts avec eux parce que Marine Le Pen a suite dénoncé l'ambiguïté du texte. Ils ne semblaient pas forcément prêts à le voter en l'état.
Vous savez, le problème du Rassemblement national aujourd'hui, c'est qu'on se demande où il se situe dans l'échiquier politique. Hein, parce que quand Marine Le Pen dit, après les deux votes à l'Assemblée nationale et au Sénat en 2024, et que quand le président de la République arrive en Calédonie le 23 mai, quand elle dit « je ne ferai pas voter mes parlementaires à Versailles le dégel du corps électoral », quand elle vient en Nouvelle-Calédonie en proposant comme seule solution un nouveau référendum aux Calédoniens, à un moment donné, il va falloir que ce parti national dise s'il est du côté... pieds et poings liés avec les LFI, ou s'il a une position qui est une position de défense des partisans de la France, d'une Calédonie française, d'une Calédonie démocratique, de droits fondamentaux pour les Français de Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'il y a une clarification à faire, parce que je considère que la dernière visite de Marine Le Pen a été plus qu'ambiguë pour les Calédoniens, hein, dont certains croyaient en la personnalité de la chef de file du Rassemblement national. Donc, véritablement, il va falloir que ce parti clarifie ses positions, hein, parce que là, on a un accord entre des indépendantistes et non-indépendantistes. Ce n'est pas arrivé depuis 27 ans, ce qui ne vous aura pas échappé que le PALICA et le PM, l'UNI, en tout cas, du coup, soutient cet accord, le défend avec beaucoup d'énergie, comme nous le faisons nous-mêmes, chaque soir auprès des Calédoniens.
Alors, toujours est-il qu'il y a des incertitudes de calendrier. Il y a, on l'a vu, un travail législatif énorme, le tout sur fond de situations économiques et sociales catastrophiques ou dramatiques, on ne sait pas quel est le meilleur mot. Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de penser que la reconstruction ou la relance économique sont en marche, qu'il y a des éléments positifs, des textes qui avancent?
Alors d'abord, on attend évidemment, vous le savez, la deuxième tranche du prêt garanti par l'État.
Est-ce que le ministre vous a donné des garanties?
En tous les cas, la Nouvelle-Calédonie a fait ce qu'elle devait
faire. Ça devait être fait après le vote du plan de réforme.
Exactement. Nous avons voté le plan de réforme. Donc aujourd'hui, la balle est dans, les cartes sont dans les mains de l'État. Et le ministre Valls semble dire qu'effectivement, cette deuxième tranche devrait arriver. Mais nous l'attendons. Nous l'attendons. Pour l'instant, nous serons rassurés quand nous l'aurons. Et puis, au Congrès, il y a une mobilisation, je pense, de très nombreux élus pour voter un maximum de textes pour aller dans le sens de cette relance. Hier, nous-mêmes, nous avons fait adopter à la quasi-unanimité du Congrès une loi du pays qui permet aux Calédoniens, aux entreprises qui n'ont plus de solution assurantielle parce que les assurances ne veulent plus couvrir leurs risques de leur entreprise. Vous savez que les assurances se sont désengagées de la Nouvelle-Calédonie depuis les émeutes, mais depuis avec le Covid, avec tout ce que nous avons pu vivre, mais principalement les émeutes. Ils ne couvrent plus le risque émeute dans la majeure majorité des cas, risque cyber-attaque, risque pandémie. Et puis aujourd'hui, quand vous êtes dans un quartier qui a été très touché par les émeutes, vous n'êtes pour certaines entreprises même plus couvertes pour des risques de base comme le dégât des eaux ou le dégât incendie. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons proposé qu'un fonds spécial où on ne paye pas d'impôt dessus, c'est-à-dire que l'entreprise pourra placer de l'argent sur un compte bancaire ou un placement et qui sera non soumis à l'impôt et dans lequel elle pourra piocher pour pouvoir s'indemniser elle-même dans le cas où elle a un refus d'assurance ou alors qu'une couverture partielle qui ne lui convient pas. Et ça, c'est bien parce que du coup, elles vont pouvoir créer ça et c'est une solution pour des entreprises qui n'en avaient plus aucune solution. Et vous savez à quel point le sujet des assurances est un sujet handicapant pour la reprise économique en Nouvelle-Calédonie. Donc ça n'est pas la panacée. La vraie solution, c'est que l'État crée un fonds de réassurance des assureurs. Mais là, pour l'instant, l'État ne l'a pas encore créé. Nous mettons en place cette solution où, effectivement, ce fonds permettra aux entreprises de mettre de l'argent sur ce fonds chaque année pour pouvoir puiser dedans sans payer d'impôts sur cet argent, donc en sortant de leurs bénéfices ou de leur report à nouveau, et s'indemniser en cas de sinistre qui arrive.
Et au Congrès, ça se passe comment? Parce qu'on a eu le sentiment qu'on ne retrouvait pas la majorité de Bougival forcément au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, que certains signataires de l'accord de Bougival continuaient quand même à faire de l'opposition par rapport à la majorité ou par rapport à la politique défendue par le gouvernement. C'est comme ça que vous voyez les choses ou...
Alors, objectivement, pas trop, puisque vous le savez, depuis que nous sommes rentrés, nous avons tenu des consensus sur de nombreux textes. Je pense à la nouvelle formule de la continuité territoriale que le président Alcide Ponga du gouvernement a proposée pour recadrer les choses, parce qu'on ne peut plus honorer ce qu'on honorait au préalable, et donc recadrer les choses. Nous avons eu des majorités bien sur la loi dont je parlais hier, sur de nombreuses lois qui viennent du gouvernement. Nous avons réussi à adopter donc cette réforme, même si vous avez raison de le noter, sur la réforme demandée par l'État.
Ça a été compliqué quand même, l'adoption du plan de réforme.
Au moins deux signataires de l'accord se sont désengagés de cette réforme. Mais bon, globalement, nous avons plutôt un entrain au Congrès à dégager des majorités pour essayer de trouver des solutions aux Calédoniens dans la grande difficulté. Parce que quand vous êtes au pied du mur et que les gens souffrent autant, vous ne pouvez pas échapper à votre responsabilité et être inconséquent sur les décisions que vous prenez.
Un Congrès qui a priori devrait durer, devrait être maintenu tel quel jusqu'en juin 2026, si tout se passe bien.
Oui, en effet, puisque nous devions avoir les élections en novembre, nous devions avoir un renouvellement du bureau du Congrès au mois de septembre. Il y avait 2 mois entre les deux, c'est très lourd le renouvellement de l'instance du Congrès. Et donc, de ce fait, plutôt que de se concentrer sur des histoires de postes internes, on a préféré laisser les choses ainsi et se concentrer sur notre travail, entre guillemets, parlementaire d'adoption de textes pour faire avancer la Calédonie et lui permettre de se redresser dans ce contexte très difficile pour les hommes et les femmes qui vivent ici.
Pour conclure aujourd'hui, vous restez confiante dans l'avenir de cet accord de Bougival ou vous allez attendre le 8 septembre pour savoir ce qui se passe en métropole et comment la politique nationale évolue pour être peut-être plus sûre de l'avenir?
Je reste confiante et je veux dire aux Calédoniens que c'est un message d'espoir que je veux leur transmettre. Pourquoi ? Non pas parce qu'on a confiance dans ce qui peut se passer à Paris, non pas parce que j'ai confiance en eux, parce que je sais que les Calédoniens sont des gens courageux, qui ont un esprit pionnier, qui se sont forgés sur le difficile, sur la souffrance, sur la douleur, et que nous sommes capables de résister à des situations très complexes. Et c'est ce que nous avons su faire, nous avons su nous redresser, nous remettre de ces émeutes qui sont un choc traumatique inouï. Et donc, je compte sur eux, je compte sur nous tous pour être dans notre ADN, d'être des hommes et des femmes courageux et donc de se relever de ces obstacles qui sont sur notre chemin. En tous les cas, du côté politique, ils peuvent compter sur nous. Nous ne lâcherons pas, nous sommes sur nos deux jambes. Nous défendrons leurs intérêts jusqu'au bout et coûte que coûte.
Virginie Rufnacht, merci d'accepter notre invitation.
Merci à vous.